Radio Prague, les informations.
Pour Amnesty International, la République tchèque compte parmi les pays vendeurs d'armes aux régimes autoritaires d'Afrique du Nord et du Proche-Orient. En visitant Bohême du Nord, le président s'en prend à ceux qui, d'après lui, utilisent les tensions à des fins politiques. Et un programme français remporte le premier prix du festival Golden Prague. La République tchèque fait partie des pays européens qui ont vendu ces dernières années une grande quantité d'armes à certains régimes autoritaires des pays d'Afrique du Nord et du Proche-Orient. Ces armes auraient servi entre autres à l'oppression des manifestations dans ces pays contre les régimes en place cette année. L'information a été publiée ce mercredi dans un rapport d'Amnesty International. L'ONG en charge de la défense des droits de l'homme a examiné les livraisons d'armes au Bahreïn, à l'Égypte, à la Libye, à la Syrie et au Yémen depuis 2005. Le président de la République, Václav Klaus, et son épouse ont entamé mardi une visite de 3 jours dans le nord de la Bohême. À Ustina de la même, le chef de l'État s'en est pris aux personnes qui, d'après lui, utilisent les tensions ethniques de la région à des fins politiques. Il a accusé nommément Lukasz Kohout, organisateur des récentes manifestations contre la communauté rome. En septembre, la police avait mis en garde contre la réutilisation possible des troubles sociaux par les groupes d'extrême droite à leur avantage. Et si le chef de l'État a prévu une rencontre avec les maires des communes de la région de Chluknov, en proie à ces tensions, il ne se rendra pas dans la région. En tout cas, certaines personnes lui reprochent d'ailleurs de ne pas avoir lié davantage sa visite aux récents problèmes. Josef Zoser, un maire de la région, a critiqué le président pour n'avoir prévu que des rencontres avec des personnalités officielles et non avec des citoyens. L'ancien premier ministre et ancien leader du parti civique démocrate ODS, Mirek Topolánek, pourrait participer au congrès du parti qu'il a dirigé, qui doit se dérouler ce week-end. L'actuel chef du gouvernement Petr Nečas a invité son prédécesseur qui pourrait y faire un discours. Mirek Topolánek avait démissionné de la direction du parti au printemps 2010 suite au scandale suscité par ses propos sur les origines juives du premier ministre intermédiaire de l'époque et sur l'orientation sexuelle du ministre des Transports. Le festival Golden Prague, Zlatá Praha, existe depuis 1964 et présente les meilleurs programmes et films de musique et de danse mondiaux, tout genre confondu. Cette année, c'est le programme français Le Carnaval des Animaux d'Andy Sommer et Gordon qui a remporté le premier prix. Tous les soirs, dans ce programme, l'humoriste Smain raconte à son fils une histoire pour s'endormir. L'enfant choisit toujours le même livre, un livre un peu sérieux avec des partitions, des photos d'orchestre et des images d'animaux. Il y est question du Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns. Le livre un peu austère se transforme, s'anime, fait de la musique et les animaux du carnaval prennent vie. Autre prix décerné dans le cadre du festival, le documentaire de la société Arte France consacré au chorégraphe tchèque Jiří Kilian. Et puis à noter encore qu'un ouvrage consacré au destin des filles de prisonniers politiques sous le régime communiste est sorti en librairie. Il est intitulé « Les filles des ennemis de l'État ». L'ouvrage fait suite à la réalisation de documentaires consacrés à ce même thème et il est le résultat du travail d'étudiants de la FAMU. L'ouvrage est signé Yana Rubikova-Schwerlova et décrit également son propre destin. On finit par un mot de météo. Jeudi, le temps ne changera pas vraiment par rapport à mardi. Toujours un temps couvert et des averses sur la majeure partie du pays. Les températures varieront entre 8 et 12 degrés pour les maximales. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme présenté par Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque. Et dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à notre chère Anna pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité figure tout d'abord une nouvelle affaire de corruption, ou tout du moins de présumée corruption. Une ancienne policière affirme en effet que la grâce présidentielle qui lui aurait été accordée il y a 2 ans de cela par le chef de l'État aurait été achetée. Une accusation bien entendu rejetée par Václav Klaus. Plus de détails dans quelques instants. Science et médecine ensuite avec l'enseignant-chercheur Jean-François Bach qui était à Prague récemment, nous l'entendrons. Et puis la rubrique du jour sera consacrée à l'histoire et plus précisément à un des textes fondamentaux de l'histoire de l'identité tchèque. Il sera question de la chronique de Dalimil et de sa dimension politique avec une thésarde française. Mais avant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une excellente écoute à toutes et à tous. Alors, les grâces accordées par le président de la République sont-elles achetables? À en croire une ancienne employée du service de la police des étrangers qui prétend que la remise de peine d'emprisonnement dont elle a bénéficié en 2009 a été achetée, ce serait effectivement le cas. Publié lundi par l'hebdomadaire Respect, l'information et les accusations de corruption ont été vivement rejetées par le président de la République et son proche entourage au château de Prague. En République tchèque, le service de la police des étrangers est chargé de la délivrance des autorisations et permis de séjour pour les ressortissants étrangers. Même si la situation s'est quelque peu améliorée ces dernières années, s'y rendre et y attendre des heures, voire même parfois des jours, avant de pouvoir présenter leur dossier à un guichet, continue de ressembler à un chemin de croix pour nombre des personnes non ressortissantes de l'Union européenne. Le service de la police des étrangers a longtemps été précédé et reste aujourd'hui encore précédé d'une réputation sulfureuse, une réputation selon laquelle certains permis de séjour seraient délivrés selon le bon vouloir des employés. Le cas de Radka Kadletsova en est très probablement l'illustration type. Il y a quelques années de cela, alors qu'elle était employée de la police des étrangers à Karlovy Vary, en Bohême de l'Ouest, Radka Kadletsova avait été condamnée à 2 ans de prison ferme pour avoir accepté plusieurs pots de vin versés par des étrangers. En 2009, Radka Kadletsova avait toutefois vu sa peine annulée suite à une grâce accordée par le président de la République. À l'époque, chose inhabituelle, aucune justification concrète à cette décision n'avait été donnée par le château de Prague. 2 ans plus tard, l'affaire remonte donc à la surface. Selon Respect, il existe 2 témoins auxquels Radka Kadletsova a affirmé que la grâce dont elle a bénéficié a été achetée. Ces 2 témoins sont le psychiatre judiciaire qu'elle a consulté peu avant l'exécution de sa peine de prison et le maire de la commune où elle réside, auquel elle avait demandé d'écrire une lettre de soutien au bureau du président de la République. Plus tard, Radka Kadletsova lui aurait toutefois confié qu'il ne s'agissait là que d'une formalité des conseillers de Václav Klaus ayant accepté des pots de vin. Très irrité, le chef de l'État n'a pas tardé à réagir à ces accusations publiées par l'hebdomadaire qu'il a qualifiées de criminelles. On écoute Václav Klaus. Je suis extrêmement indigné, outré et écœuré. J'oppose mon veto, j'oppose un veto catégorique, j'exclus la possibilité qu'une telle chose ait pu se passer. La technique selon laquelle sont accordées les grâces ne le permet absolument pas et je ne peux pas imaginer comment cela aurait pu se passer. Lundi, suite à la publication de l'article par le magazine, la police a commencé à rassembler les documents avant de décider s'il y a bien lieu d'ouvrir une enquête ou de classer l'affaire. Celle-ci a néanmoins provoqué des réactions au sein de la classe politique. Le Parti social-démocrate, principale formation de l'opposition, a ainsi demandé à ce que toute la documentation relative au dossier de Radka Kadletsova soit mise à disposition du public, et ce, malgré le fait que l'entourage du président est tenu en temps normal de garder ces informations parfois très sensibles secrètes. Quant au parti de coalition Top 09, ses représentants proposent que la grâce présidentielle ne soit plus seulement un pouvoir exclusif du chef de l'État, mais aussi d'un autre organe d'État. Illustre enseignant-chercheur en médecine, membre de l'Académie des sciences et de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, Jean-François Bach est intervenu lundi dernier à l'Institut français de Prague. Jean-Sébastien Létang l'a rencontré.
Le sujet de la conférence, les maladies auto-immunes et allergiques dans la société moderne, sujet de prédilection de ce spécialiste d'immunologie. La conférence semblait ardue pour des non-savants en médecine. Monsieur Bach nous a tout d'abord expliqué ce que sont ces maladies.
Les maladies allergiques, je pense que tous vos éditeurs les connaissent. On est allergique à un médicament, on est allergique à un venin de guêpe, mais on peut également avoir des maladies chroniques. Quand on est tout petit, on peut avoir un eczéma. Quand on est un peu plus grand, on peut avoir un asthme ou un rhume des foins. C'est l'ensemble de ces maladies qu'on appelle allergiques. Pourquoi elles sont allergiques? C'est parce qu'on répond de façon exagérée à quelque chose qui est dans l'environnement, quelque chose qui est extérieur. Puis les maladies auto-immunes, c'est tout le contraire. On reconnaît ses propres organes de façon anormale. Et du coup, on peut avoir des réactions immunitaires qui attaquent ces organes et donnent des maladies. Les plus connues d'entre elles sont le diabète insulino-dépendant ou la sclérose en plaques.
La fréquence de ces maladies ayant presque doublé en 20 ou 30 ans dans les pays riches, le docteur Bach défend une thèse corrélant le nombre d'infections de ce type avec le niveau de vie des malades.
L'hypothèse que nous défendons, c'est que c'est la baisse des infections qu'on observe dans les pays modernes qui est à l'origine de l'augmentation de la fréquence de ces maladies. La baisse des infections, c'est connu, c'est la baisse des grandes maladies infectieuses, ça on sait. Mais c'était aussi l'amélioration de la qualité de l'eau, la qualité des aliments. Maintenant, nous buvons et nous mangeons propre, ce qui n'était pas vraiment le cas autrefois. Et la raison pour laquelle la baisse des infections augmente avec les maladies auto-immunes et allergiques, c'est qu'il y a une sorte de compétition entre les réponses immunitaires dans les infections et les réponses immunitaires à l'origine des maladies allergiques et auto-immunes. Alors, quand les unes baissent, les autres montent.
La solution serait-elle donc de réintroduire les grandes infections telles que la tuberculose en Europe? Évidemment non. Jean-François Bach.
Il ne faut pas redonner les infections, non, il faut essayer de comprendre pourquoi les infections protégées contre les maladies auto-immunes et allergiques, essayer de reproduire ce mécanisme par des médicaments inoffensifs.
Au lendemain de la reprise des prix Nobel, l'occasion nous était également donnée de parler de l'état actuel de la recherche médicale en France.
On a eu quand même 3 prix Nobel de biologie et de médecine en 4 ans. Le dernier remontant avec Jules Hoffmann il y a quelques jours. Donc ça, c'est un critère dans lequel on peut se satisfaire. Il y en a d'autres, ce sont le nombre de publications scientifiques, le nombre de brevets. Non, globalement, la France est à un bon niveau dans le domaine de la recherche médicale. Non, je pense que on pourrait faire mieux si on était un peu mieux organisé, si peut-être on avait encore plus de moyens, comparativement notamment comparables à ceux des Américains. Mais dans l'ensemble, ça se passe relativement bien. Et les exemples que je viens de donner le montrent.
Il semble que la fulgurante croissance économique de l'Ouest ne suffise pas à nous sauver de maladies comme la sclérose en plaques. Il reste à espérer que la recherche scientifique le pourra. À voir.
C'était donc l'enseignant-chercheur en médecine Jean-François Bach. Et c'est avec lui que s'achèvent ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la seconde moitié de notre programme. Une seconde moitié de programme consacrée comme chaque mercredi à la rubrique et à l'histoire. La chronique de Dali Mil est l'un des textes fondamentaux de l'histoire de l'identité tchèque. Et Louise Had, chercheuse au Centre français de recherche en sciences sociales, vient de soutenir une thèse portant sur ce précieux texte. Au micro de Paul Bauer, Héloïse Had revient sur la dimension politique de la chronique à l'époque de sa rédaction, c'est-à-dire au début du XIVe siècle, et nous éclaire sur les multiples réutilisations dont ce texte a été l'objet depuis sa rédaction jusqu'à nos jours.
Chapitre de l'histoire. La chronique de Dali Mil est un texte extrêmement connu en République tchèque. Est-ce qu'on peut parler d'un texte fondateur de la nation tchèque ?
En effet, la chronique de Dali Mil a un caractère fondateur. C'est la première chronique écrite en tchèque. Alors, ce n'est pas la première chronique tchèque, puisque l'a précédé la chronique de Cosmas. Mais cette chronique de Cosmas, c'était une chronique issue de la sphère monastique, donc qui avait un caractère confidentiel, qui était destiné à des moines, à des clercs, qui à l'époque représentaient le domaine de la culture au Moyen-Âge. Et donc avec Dali Mil, avec cette chronique, on sort de cette sphère confidentielle des monastères pour envahir le domaine public, si on peut dire, la société, l'espace public, avec une chronique qui entend s'adresser à la nation tchèque et qui leur parle en tchèque.
Alors comment vous définissez le contexte politique dans lequel le texte a été écrit ?
Alors le contexte politique de la rédaction de ce texte est un contexte extrêmement complexe, puisque la chronique a été écrite environ en 1309-1310, c'est-à-dire trois ans après l'assassinat de Venceslas III. Il a été assassiné le 4 août 1306. Et cet assassinat rassemble des enjeux extrêmement importants, puisque d'une part, il n'a pas de descendants. Donc, après son assassinat, la dynastie des Přemyslides s'éteint. C'est une dynastie qui régnait sur la Bohème depuis Bourgivoy, c'est-à-dire depuis la fin du 9e siècle. Donc, ça veut dire que tout d'un coup, l'État est vraiment ébranlé dans son essence, d'une certaine manière, puisque l'État tchèque et la dynastie des Přemyslides ont grandi, d'une certaine manière, en même temps, ensemble. Et du coup, la fin de la dynastie des Přemyslides, ça voulait dire aussi, d'une certaine manière, la fin de l'État tchèque. Et on le voit très bien avec les velléités des Habsbourg qui essaient de s'emparer à ce moment-là, qui s'est profité de ce vide politique pour s'emparer de la Bohème et en faire vraiment une maison à part entière, un domaine à part entière de leur maison. Donc il y a plein de tensions finalement qui s'activent de manière très très forte à cette période.
Comment qualifiez-vous le discours de Dalimil dans la chronique?
Le discours de Dalimil est politique. En effet, son auteur présente un programme politique extrêmement structuré. Il invite les seigneurs à se réunir et à prendre conscience de leurs forces. À la fois, pour lui, il remonte à l'origine de l'État tchèque, où il raconte en fait une histoire selon laquelle ce sont les Tchèques qui ont créé les seigneurs tchèques, pardon, qui ont créé l'État tchèque et qui ont choisi Přemysl le premier duc de la Bohème. Et donc il donne de l'importance aux seigneurs tchèques en leur assignant de siéger au conseil pour jouer le rôle politique qu'ils doivent jouer. Et de cette manière, remplir la mission nationale, jouer le rôle de nation, mettre en scène la nation qu'il découvre à travers les pages de sa chronique.
Donc parler de nation au XIVe siècle est extrêmement moderne. Comment la nation se définit dans ce texte ?
Alors la nation chez Dalimil est extrêmement importante. Il l'appelle la langue, avec toute la richesse polysémique que ce terme peut avoir, puisque il parle de langue, enfin il utilise le mot yazyk qui signifie nation en vieux tchèque, hein, narod. Mais effectivement, il ne parle pas que de la langue dans le sens le système de communication qui permet aux gens de parler entre eux. Hein, il parle vraiment de, quand il utilise ce mot, il parle vraiment de la nation en elle-même, dans le sens moderne du terme. Alors bien sûr, avec les limites qu'il faut apporter à cette notion pour l'époque, hein, quand il parle de nation, c'est pas du tout dans les mêmes termes que les nôtres aujourd'hui. Et il limite cette nation à la noblesse, au seigneur tchèque. Alors pas dans le sens où il voudrait quelque chose d'un système oligarchique, extrêmement il faut se replacer dans cette époque-là où pour lui, le seigneur, c'est la personne qui est capable de préserver l'intégrité de la Bohème parce que le domaine, il a une vision de la noblesse comme d'une noblesse terrienne où la terre joue un rôle extrêmement important. Et du coup, pour lui, le seigneur, c'est celui qui a intérêt à préserver son domaine. Et donc, c'est la base du territoire, du royaume et donc de la nation pour lui.
Donc, préserver un domaine, préserver un territoire, une intégrité territoriale, une nation, c'est une forme de patriotisme national avant l'heure, non ?
Alors, avant l'heure, c'est un peu difficile de voir les choses comme ça. C'est surtout que là, je dois à nouveau parler de ce contexte où il y a vraiment une menace très importante et donc le risque que la Bohème se dissémine totalement dans le domaine, l'empire des Habsbourg, qui lui au contraire à cette époque-là est extrêmement puissant. Donc il y a toujours ce contexte politique qui est extrêmement fort. Alors après, est-ce que c'est du patriotisme avant l'heure ? C'est difficile de voir les choses comme ça, mais en plus, au-delà de cette menace extérieure, il y a aussi une menace intérieure qui est extrêmement importante avec des Allemands très nombreux sur le territoire de la Bohème, et aussi avec un changement au XIVe siècle, bon, qui a commencé au XIIIe, mais qui est de plus en plus sensible durant cette période, c'est une montée de la bourgeoisie.
Une bourgeoisie tchèque, une bourgeoisie allemande.
Voilà. Une bourgeoisie qui est extrêmement germanisée au XIIIe siècle. Et c'est là la clé du message de Dalimil. C'est que derrière toutes ces considérations politiques, nationalistes, nationales, il y a aussi une situation sociale très très structurante avec une bourgeoisie allemande, germanisée, de plus en plus riche, de plus en plus puissante, et une noblesse tchèque qui, elle, au contraire, a l'impression de perdre un peu du terrain, à la fois face à la tendance absolutiste du pouvoir qui est de plus en plus marquée, hein, donc dans toute la chrétienté à cette époque-là, et cette montée de la bourgeoisie. Donc elle a l'impression, la noblesse tchèque a l'impression vraiment d'être enserrée, d'être prise de court de tous les côtés.
Donc on devine tout l'intérêt de la réutilisation de ce texte dans les périodes ultérieures. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments pour comprendre la manière dont ce texte a été récupéré par la suite?
Alors ce texte a été extrêmement réutilisé et très tôt. C'est ça qui est intéressant dans ce texte, c'est que dès le 15e siècle, il y a une réutilisation par le mouvement hussite. Et ce qui est aussi caractéristique, c'est que cette réutilisation va se focaliser sur certains aspects du message de Dalimil. Et très vite, la portée politique de son discours est totalement gommée pour privilégier les aspects nationalistes. Donc 15e siècle, il y a tout, à nouveau la menace Habsbourg qui est réactualisée, le mouvement hussite qui essaie de dégager les aspects vraiment tchèque de la société de la bohème et de rassembler, de mobiliser le peuple autour de ces éléments-là. Donc elle reprend le texte comme l'étendard de la nation tchèque et dans l'histoire, de manière récurrente, ce message nationaliste est réactualisé.
Et au-delà du Moyen-Âge, comment ce texte a-t-il été utilisé ?
Alors ce texte a été réutilisé, comme je l'ai dit précédemment, pour son message nationaliste et anti-allemand. On le voit très bien au moment du renouveau national, qui est une période extrêmement importante dans l'historiographie, même dans la culture tchèque, hein, qui commence donc à la fin du XVIIIe siècle et qui s'épanouit vraiment durant tout le XIXe siècle. Et cette période est caractérisée par le travail très très important des philologues, des historiens tchèques, qui essaient de retrouver l'essence, d'une certaine manière, du peuple tchèque, et donc à travers ces mythes fondateurs. Et du coup, la chronique de Dalimil, qui recense tout, du mythe ethnogénétique à toutes les légendes de création du duché, etc., forcément a été un peu le catalyseur, et du coup est reprise de manière très intense par tous ces historiens.
Après 1948, durant les décennies du socialisme d'État, est-ce que ce texte est utilisé? Est-ce qu'il est compatible avec les idéaux de l'époque?
De manière surprenante, ce texte est compatible. Il est repris de manière très constante dans les programmes scolaires. Hein. Il fait partie vraiment des textes qui de base de l'enseignement de la littérature tchèque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois il est repris, alors avec le message national, hein, finalement, qui n'était pas du tout, qui n'entrait pas en contradiction avec les visées socialistes. Et on lui donne une couleur plus acceptable, prolétarienne. Il y a cette histoire de la rencontre de Boghena et Oldřich. Oldřich, c'est un des ducs de la Bohème, hein, au XIe siècle. Et donc cette histoire est reprise. En fait, Oldřich se promène à cheval dans la région de Postolopolti et il voit Boghena, une lavandière, en train de laver du linge dans la rivière. Et il clame un discours extrêmement anti-allemand où il dit: je préfère me marier avec Boghena, une paysanne tchèque, plutôt qu'avec une reine allemande. Et là, c'est repris non pas dans le sens anti-allemand du texte, mais dans un sens prolétarien où Oldřich préfère une pauvre tchèque, et donc dans une vision extrêmement démocratique du message, alors que c'était pas forcément en ces termes-là que Dalimil s'adressait à son public.
On le voit en vous écoutant, ce texte est fondateur pour l'identité nationale tchèque. C'est un texte qui propose un programme politique, c'est extrêmement moderne. Est-ce qu'on trouve des textes similaires dans d'autres pays d'Europe centrale rédigés à la même époque?
Non, on ne trouve pas d'autres textes. Ce texte est vraiment très très particulier. On ne trouve pas de texte aussi structuré et en plus aussi long, hein, parce que ce texte est long, il contient 103 chapitres, capable surtout de s'imposer vraiment comme un texte fondateur et de le rester encore aujourd'hui. C'est un texte, comme on l'a dit, qui est présent dans tous les programmes scolaires. C'est un texte qui a été capable de sortir de sa portée initiale pour s'adapter aux périodes antérieures et qui est capable à chaque fois de mobiliser l'intérêt d'un public important.
Voilà, c'est donc avec Héloïse Had qui parlait de la chronique de Dali Mil, un des textes fondamentaux de l'histoire de l'identité tchèque, que s'achève pour aujourd'hui le bloc Actualité préparé par la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention, merci aussi de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute de Radio Prague.